Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack avec Laurent Deboeuf.
C'est la troisième partie de Soundtrack ce matin et je vous l'annonçais, ici ce sera une séquence consacrée à Duran Duran. C'est une séquence bien entendu en prémisse de l'avenue du groupe. Ce groupe quand même qui a marqué les années 80, qui vient donc au Sport Palace à Anvers, ce sera le 9 juin. Et pour parler de Duran Duran et justement approfondir le sujet sur ce groupe, comme je le disais, qui a marqué les années 80, je suis ravi d'accueillir Manu Debièvre. Bonjour Manu.
Bonjour Laurent.
Attendez, parce qu'il y a un micro entre nous qui nous gêne. Voilà, ça y est, je l'ai bougé. Comme ça, on peut au moins
se voir. On peut se voir, oui.
Je suis vraiment content de vous recevoir parce que c'est la première fois que vous venez dans l'émission. J'ai déjà eu, non pas l'occasion de vous recevoir puisque les séquences avaient été enregistrées, c'était les Lynx durant les vacances d'été, que ce soit les précédentes ou même celles d'encore l'année précédente aussi. Et là, ben voilà, on a l'occasion de travailler une fois ensemble, en live, véritablement. Et donc, ici, ben, on peut déjà parler quelle est l'origine de Duran Duran. Et puis aussi, ce nom de Duran Duran.
Effectivement, ils sont originaires de Birmingham, qui est la deuxième ville d'Angleterre. On pense souvent que c'est plutôt Manchester ou Liverpool, mais non, c'est bien Birmingham, deuxième ville d'Angleterre au niveau économique et au niveau de la population. Alors Birmingham, c'est surtout connu pour maintenant les Peaky Blinders, évidemment,
ah oui.
mais aussi le club de foot d'Aston Villa. Mais c'est une ville plutôt grise, industrielle. C'est la ville du métal, en fait. D'abord le métal en tant que tel, hein, l'industrie du
le
métal.
Produit.
Voilà. Oui. Et puis après, c'est devenu la ville du métal, la musique, évidemment.
Musicale. Ouais.
avec Black Sabbath, Judas Priest et Led Zeppelin bien sûr. Donc Duran Duran se forme en 1978 avec Nick Rhodes et John Taylor, et encore un peu plus tard ils sont rejoints par Roger Taylor et Andy Taylor, donc trois Taylor dans le même groupe, et Simon LeBon, le chanteur qui va arriver un peu plus tard. Donc la formation prend à peu près deux ans, et donc en 1980 l'équipe est au complet. Donc les trois Taylor n'ont aucun lien de famille entre eux. Roger Taylor n'a pas le lien non plus, est homonyme du batteur de Queen, mais n'a pas de lien non plus.
C'est assez amusant parce qu'ils auraient pu s'appeler My Taylor is Rich ou quelque chose comme ça.
Effectivement, ça aurait été une bonne idée. Non, ils ont préféré s'appeler Duran Duran. Alors ça vient d'où, Duran Duran ? Ça vient d'une BD un petit peu érotico-kitsch. En fait, un film aussi, le film Barbarella de Roger Vadim avec Jane Fonda, sorti en 1968. C'est basé là sur une BD érotique française considérée comme la première BD pour adultes.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est le méchant en fait. Duran. Dans le BD, il n'est pas du tout méchant, c'est un vieillard borgne, donc rien à voir. Mais bon, voilà, l'inspiration vient de ce film kitsch, érotico-kitsch. Pour la petite parenthèse, Barbarella, dans Barbarella aussi, Lio, vous vous souvenez,
oui,
Lio,
absolument.
Eh bien, le nom de Lio, le surnom de Lio, vient aussi de cette BD Barbarella. C'est aussi un personnage dans Barbarella.
Voilà. D'accord, ok. Et alors, au niveau des influences, c'est assez amusant parce que il y a entre autres un artiste qui lui aussi a été influencé, que ce soit par la littérature, par la bande dessinée, etc. C'est David Bowie.
David Bowie, ça c'est vraiment une grande influence. C'est la seule influence commune à tous les membres du groupe, en fait, parce que pour certains, Simon LeBon notamment, qui vient plutôt du rock, du punk, du glam rock, ils aimaient beaucoup Roxy Music, Brian Eno, aussi des groupes contemporains de la New Wave comme Cure ou Siouxsie. Il y a aussi les synthés, évidemment, les groupes à synthés de l'époque, Depeche Mode évidemment, dont c'est le début, Ultravox, Kraftwerk, pour la rythmique, ils sont influencés aussi par Chic, ça c'est clair aussi, le funk et le disco. Mais effectivement, Bowie, ça c'est l'influence que tous les membres du groupe reconnaissent.
D'accord. Eh bien, c'est une bonne occasion justement pour retrouver une version de Fame que Duran Duran avait enregistrée et sortie en 1981.
Yeah.
Duran Duran qui reprend le Fame de David Bowie avec beaucoup moins de guitare électrique, beaucoup plus de synthé. On a pu l'entendre ici en 1980. C'était la face B d'un single. Mais je ne sais plus, c'est Dark...
Careless Memories.
Voilà, c'est ça, Careless
Memories. C'était leur deuxième single.
Voilà. Et puis alors, il y a le premier album qui va arriver aussi à partir de 1981.
Oui, ça sort en juin, 15 juin 1981, avec Girls on Film, on l'a entendu en début d'émission, c'est le premier succès du groupe. Girls on Film qui est un titre un peu mal interprété. Alors on pense tout le temps que c'est des paroles légères, que ça parle de filles qui font de la photo. En fait, c'est une critique de l'industrie de la mode et de la pression imposée aux mannequins, aux femmes, qu'on décrit un petit peu dans la chanson comme épuisées. Voilà, le clip aussi a beaucoup fait parler de lui à l'époque, hein, puisqu'il a été carrément censuré, hein, puisqu'il y avait de la nudité, du fétichisme, c'était du porno chic.
Oui.
Et donc ça a été censuré à l'époque. Et donc dès le début, Duran Duran va être reconnu pour la qualité de ses clips, qui vont être très léchés, arty, qui contrastent vraiment avec les clips de l'époque, qui sont assez simplistes, avec juste quelques spots. Et voilà, c'était vraiment le début du clip. Et donc, eux, ils ont lancé un petit peu cette esthétique, l'esthétisme qui a beaucoup vraiment d'importance dans le groupe. Ça, le visuel, la mode, tout ça, ça fait partie intégrante du groupe.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Et alors, c'est assez amusant parce que ça me fait un petit peu penser aussi à Bryan Ferry, qui a toujours été entouré, et même sur les pochettes de ses albums, il y a toujours eu de très très jolies filles à cette époque-là. Mais là, ils étaient quand même déjà interpellés par la pression que subissait le monde du mannequinat. Ces mannequins qui parfois sont très très jeunes, qui se privent de manger, et c'est des choses dont on ne parlait pas à l'époque, donc c'est déjà assez avant-gardiste. Hein.
Absolument. Et malgré tout, ils séduisent, hein, évidemment, beaucoup les jeunes filles. Hein, c'est un peu ce qu'on va leur reprocher aussi. Hein.
Bah, Simon Le Bon, c'est aussi un beau garçon.
Voilà, c'est un beau mec. Donc forcément, ils séduisent les jeunes filles. On va un peu les prendre pour des playboys. Ça va un petit peu les desservir, en fait, parce que du coup, on va les prendre pour un espèce d'ancêtre de boys band à l'époque.
Ouais.
Ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Duran Duran, c'est quand même une vraie... C'est de la vraie musique, il y a une vraie réflexion derrière, et il y a, comme je vous le disais, les références sont assez parlantes. On parlait de Bowie tout à l'heure. Une autre référence, c'est Andy Warhol. Nick Rhodes est un grand fan d'Andy Warhol. On va le voir après avec la pochette de Rio, qui est une pochette très pop art aussi.
Ouais.
Donc voilà, Nick Rhodes, le claviériste, il est un peu le moteur de cet esprit dans le groupe, avec ses cheveux peroxydés. Il a un look particulier, il est toujours maquillé, il est amateur de photos, de mode, d'architecture. Il a un côté androgyne vraiment assumé. Voilà. Maintenant, le fait de séduire des jeunes filles, ça va leur être un petit peu reproché. Mais d'un autre côté, comme disait John Taylor dans une interview à notre collègue Luc Lorfèvre dans Télémoustique à l'époque, il disait « Plus on signait de tubes, plus on nous affichait en cover des magazines ados et moins nous étions pris au sérieux. Hormis notre guitariste Andy Taylor qui se sentait frustré de ne pas être considéré avant tout comme musicien, on s'en foutait, on était au sommet. »
Bah oui, tout à fait. Je vous propose d'écouter un extrait de ce premier album en 1981. Voici Planet Earth.
Make some new rules.
Planet Earth à l'instant, donc extrait du premier album de Duran Duran. Et Manu, apparemment il y a une phrase qui est très importante dans cette chanson.
Oui, et c'est leur premier single, et au tout début de la chanson il dit « Like some new romantic looking for the TV sound ». New romantic, évidemment, c'était le terme, c'était le nom du mouvement dans lequel on a, à ce moment-là, placé les Duran Duran.
Tout à fait.
Un courant musique et mode, selon Wikipédia, puisque j'étais voir
influencé. On en parlait un petit peu aussi, hein, les cheveux peroxydés,
absolument.
Les cajagougou, etc., tout ça, quoi.
Absolument, on est tout à fait dans ce domaine-là, avec Spandau Ballet, Visage aussi, sont cités.
Culture Club.
Culture Club. Ouais. C'est influencé par le glam rock et le rejet du conformisme et le romantisme de la fin du XVIIIe siècle. Voilà, ça c'est pour la définition Wikipédia. Je suis pas tout à fait sûr qu'il faut absolument les catégoriser dans ce mouvement-là, parce qu'en fait, les deux premiers albums, pour moi, c'est de la New Wave. Hein. C'est de la pop, New Wave, c'est clair, et les influences sont claires. On l'entend un petit peu sur Planet Earth aussi. On va l'entendre tout à l'heure sur un autre titre qui est New Religion, dans l'album suivant. Voilà, ça... La New Wave fait partie de leur ADN.
D'accord. Et alors, l'album suivant, vous l'évoquiez déjà un instant, notamment en parlant d'Andy Warhol, puisque là aussi, c'est une pochette qui est très très pop, hein, avec ce visage féminin, ce fond violet. C'est l'album Rio qui sort en 1982.
Ça, c'est clairement leur chef-d'œuvre. Hein. C'est un album emblématique des années 80. La pochette, vous l'avez dit, est inoubliable. Hein, cette jeune fille souriante. Mm-hmm. C'est un graphiste américain qui s'appelle Patrick Nagel qui a dessiné cette pochette. L'illustration, d'ailleurs, est conservée au MoMA à New York, le musée des arts modernes.
D'accord.
Et effectivement, on en revient encore à Andy Warhol, puisque c'est très entre art déco et pop art. Tous les titres, je pense, de Rio sont bons, sauf un. Ouais. C'est Hungry Like the Wolf, qui est malheureusement leur plus gros succès aux États-Unis.
Et pourquoi il est moins bon, selon vous ?
Je trouve que c'est un peu facile, voilà.
D'accord.
Je trouve que la mélodie est un peu facile, et les autres sont beaucoup plus recherchés, comme The Chauffeur, par exemple, qui est un titre avec une atmosphère très particulière, et le clip, d'ailleurs, rend hommage à fait référence à un film noir et blanc, Portier de nuit, un film érotique aussi, là encore, on en revient toujours. voilà, ouais, ils sont assez, ouais, ils aimaient bien la chose quand même, j'ai l'impression. Il y a aussi évidemment le single Rio, qui est un autre grand succès, avec là aussi un clip marquant, puisqu'il a été élu meilleure vidéo de tous les temps, devant Thriller de Michael Jackson en 2008 par les téléspectateurs de MTV. Bon, évidemment, chacun a son avis par rapport à ça. Voilà, Rio, c'est un chef-d'œuvre, tous les titres, sauf un, comme je le disais, tous les titres me semblent très très bons.
Et notamment celui-ci qui est évidemment un hit international, Save a Prayer.
All alone.
Save a Prayer pour Duran Duran, donc cette spéciale que l'on partage ce matin avec Manu Debièvre. Et là, on était sur l'album Rio en 1982. Bon, là, évidemment, les années 80, c'est le succès interplanétaire. On se souvient tous de Reflex et de ce clip que l'on regardait tous aussi à l'époque. Moi, je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Hein. Mais bon, ça, voilà, c'est des choses qui ont marqué. Et puis, vous parlez des jeunes filles. Ben, les jeunes filles de ma classe à l'époque étaient aussi des admiratrices de Duran Duran et principalement de Simon Le Bon.
Ben voilà, il y avait les jeunes filles, et puis il y avait moi à l'époque aussi. J'espère pas le seul mec fan de Duran Duran, non, je ne pense pas. Effectivement, il y a eu le troisième album, Seven and the Rag Tiger, un album avec un titre un petit peu bizarre. Rag Tiger, ça veut dire tigre en lambeaux, et en fait, ça représente pour eux le succès et la célébrité, tandis que Seven désigne les cinq membres du groupe, plus leur manager et leur esprit collectif. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est une façon, selon le groupe, de parler, façon poétique de parler de leur combat contre la pression médiatique. Mmh. Et effectivement, ils vont en avoir pas mal de pression médiatique à partir de cet album-là, avec, vous l'avez dit, The Reflex, qui est certainement un des plus gros hits du groupe. The Reflex, en fait, la version qui est sur l'album n'est pas du tout celle qui a du succès. C'est une version remixée par Nile Rodgers de Chic. Qui cartonne. Et cartonne tellement d'ailleurs que ça attire même l'attention de Michael Jackson, qui leur propose une collaboration donc en 1983. Et en grand seigneur, il refuse.
Faut quand même le faire. Hein. Allez, quelques mots ici sur un autre titre, hein, ici qui date de 1983, c'est The Union of the Snake.
Ouais, ben moi personnellement c'est le premier 45 tours que j'ai acheté, comme ça vous savez tout. Mmh. Et puis le clip est tourné dans l'Outback, dans le désert australien. Pour l'anecdote, ils sont tombés en panne d'essence, donc ils sont restés quelques heures sous 40 degrés. Ça devrait pas être sympa. Et puis on refait le lien là avec David Bowie parce que la ligne de basse, la rythmique, les percussions aussi sont clairement inspirées par Let's Dance de David Bowie. Et c'est assez clair quand vous l'écoutez.
Eh bien, mesdames et messieurs, je vous en laisse juge.
Together, nothing gets about to
Union of the Snake. C'est vrai que c'est flagrant quand même, cette ressemblance. Il n'y a pas eu d'histoire quand même entre... Enfin, j'espère qu'il n'y a pas eu de conflit entre David Bowie.
Du tout. Non, au contraire. Ils ont même fait un concert, une première partie de David Bowie en Australie, je pense. Non, ils étaient plutôt copains.
Ok. Voilà, donc c'est la suite et la fin de notre séquence ici consacrée à Duran Duran. Je vous rappelle que le groupe sera de passage au Sport Palace à Anvers avec Classic 21. Ils font confiance à Classic 21, donc ça c'est super sympa. Pour ce concert, ce sera le 9 juin prochain. On était sur l'album Rio, on a un petit peu évoqué l'année 1983. Et puis alors ici, il y a un titre que vous évoquiez déjà tout à l'heure, c'est New Religion.
Ah, ça c'est mon préféré, c'est simplement parmi les deux meilleurs albums de Duran Duran, c'est-à-dire les deux premiers, bah pour moi c'est le meilleur, simplement parce qu'il représente vraiment bien Duran Duran. C'est pas un single, c'est le synthé est assez new wave, par contre la basse est elle très funky et plus quelques guitares autour, donc voilà, ça résume bien les trois influences de Duran Duran, la new wave, le funk et le rock.
Ok, bah écoutez, c'est une belle conclusion. En tout cas, je vous remercie beaucoup, mon cher Manu, d'être passé par chez nous.
Bah écoutez, avec plaisir.
Oui, et vous revenez quand vous voulez.
Merci.
Allez, on se quitte avec ce titre New Religion. Urban Legend, donc cet extrait de Rio, album dont nous avons dressé aussi le portrait avec Manu Debièvre. Donc c'est la première fois que Manu vient dans l'émission. Il y en aura d'autres, hein, puisqu'on en parlait il y a quelques instants. Merci encore à lui.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.